Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Anne-Laure Chouin qui a signé le journal et qui sera de retour à 9h.
Eh, moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître, c'était Jacques de Rogy, qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort. Je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Bienvenue à tous dans les coulisses de l'information. Avec ce matin dans les coulisses de la régie, Vincent Abouchard, Mathias Mégy et Pierrick Monsigny. Et avec vous toutes et vous tous, de l'autre côté du poste et sur franceculture.fr pour les réactions et les commentaires. Il est passé par ici, il repassera par là. Le week-end dernier, Jérôme Kerviel a assuré les gros titres. Les télévisions en particulier nous proposant un feuilleton médiatique dans un mélange de Forrest Gump, de Courteline et de Robin des Bois. En une, la marche depuis l'Italie vers la France de l'ancien trader de la Société Générale, condamné à 3 ans de prison ferme et qui a donc fini par se rendre à la police. Il a depuis été emprisonné à Nice, puis hier à Fleury-Mérogis. Comment interpréter cet emballement médiatique? Et dans toute cette affaire Kerviel, les médias sont-ils manipulés? Mais si oui, par qui? Par Kerviel lui-même, qui de condamné devient héros? Ou par la Société Générale, avec en filigrane l'omerta qui règne sur une partie de cette histoire? Avec nous, ce matin, Dominique Verdeillan, chroniqueur judiciaire à France 2, Pauline Grohl, journaliste à Politis, et Stéphane Durand-Soufflant, chroniqueur judiciaire au Figaro. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Avec nous également, comme toujours, l'un des membres de notre cercle d'observateurs des médias, et aujourd'hui, ça s'imposait, c'est l'avocat spécialiste du droit des médias, Fabrice Lorvaux, qui est avec nous. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Et l'homme des images et des réseaux sociaux, Éric Chavroux. Bonjour Éric.
Bonjour.
C'est le secret des sources sur France Culture.
Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Où en est-on ce soir du feuilleton Jérôme Kerviel? L'ex-trader depuis 48 heures a multiplié les déclarations et les contradictions. Il voulait ce matin rester en Italie. Ce soir, il reprend le chemin direction la France. Va-t-il se rendre à la justice? D'une longue marche, on est passé ce week-end avec son avocat un tourbillon médiatique. Décryptage et l'analyse de Dominique Verdeillan. À la une également, la situation d'urgence dans les Balkans.
L'ouverture du JT de 20h de France 2, dimanche soir. Vous étiez donc en direct, Dominique Verdeillan. Quelques heures plus tard, c'était l'épilogue de ce feuilleton qui avait tenu en haleine une grande partie des médias pendant les 3 jours précédents. Jérôme Kerviel se rendait à la justice à Menton. Stricte application du droit, puisque dans ce dossier, une décision définitive a été rendue il y a 2 mois en cassation. Après 2 procès en première instance et en appel, la Cour a certes annulé la condamnation du trader à payer 5 milliards de dommages et intérêts, mais elle a confirmé la peine de prison à son encontre. Tout à l'heure, nous allons nous interroger sur l'attitude des médias vis-à-vis du procès plus globalement et vis-à-vis du fond de l'affaire, mais on va quand même s'arrêter dans un premier temps, dans la première partie de l'émission, sur cet étonnant show médiatique du week-end dernier. Des dizaines et des dizaines de caméras et de journalistes pour suivre le moindre mouvement de Jérôme Kerviel. Comment expliquez-vous les uns les autres cet engouement autour d'un homme qui, encore une fois, est coupable? Et le dire, ça ne relève pas du commentaire, ça relève du fait juridique. Comment expliquer cet engouement? Quels sont les ingrédients presque de scénario qui l'explique peut-être? Est-ce que c'est juste l'image du pot de fer contre du pot de terre contre le pot de fer? Dominique Verdeillan, Pauline Grohl, Stéphane Durand-Soufflant. Dominique Verdeillan.
Je dirais c'est simplement une information. Cet homme a effectivement été condamné. Il y a un arrêt de la Cour de cassation du 14 mars dernier qui rejette le pourvoi sur l'aspect pénal. Et vous l'avez rappelé, casse la condamnation sur le civil. Et on y reviendra peut-être plus précisément dans un instant. Voilà, cet homme, nous dit-on, rencontre le pape, fait une marche, mais il doit aussi purger sa peine. Donc, à partir du moment où on apprend, il y a quelques jours, qu'il doit franchir la frontière, nous dit-on, samedi dernier à 15h, il est normal qu'on couvre cette information.
Qu'on couvre, oui, mais de là à ce que ça fasse le grand show, il y a de la marge.
J'ai pas l'impression qu'à France 2, on a fait le grand show.
Je parle en général, c'était la tonalité médiatique du week-end.
Oui, mais pardon,
le feuilleton du week-end dernier. Hein.
Je suis pas là pour valider ce que font nos confrères. Hein. Voilà, il y a eu un choix de la rédaction de France 2, vous l'avez évoqué par le passage il y a un instant, effectivement d'en faire l'ouverture samedi soir, effectivement d'avoir Jérôme Kerviel en plateau. La question s'est d'ailleurs posée.
Dans le 13h
dans le 20h du soir.
Et dans le 13h auparavant aussi.
Voilà. Comme elle s'était d'ailleurs posée au moment du procès. Et puis nous y avons consacré effectivement l'ouverture avec deux entrées, comme on dit, dimanche soir, parce qu'il y avait un certain nombre de questions à poser à Jérôme Kerviel, et puis il y avait aussi, et c'était mon rôle le dimanche soir, un certain nombre d'informations à donner, qui allaient d'ailleurs dans la contradiction de ce qu'il avait avancé. Hein. Il avance qu'il demande au président de la République qu'il veut une immunité des témoins. Bon, bah, je crois que c'est notre devoir de dire le lendemain que c'est quelque chose de totalement fantaisiste, de dire qu'on ne sait pas à ce moment-là encore s'il va passer la frontière, donc s'il le passe, il va être arrêté ce qui s'est passé, mais s'il ne le passe pas, il y aura un mandat d'arrêt européen. Pardon, c'est de l'info.
Alors, Stéphane Durand-Soufflant et Pauline Groll, est-ce qu'il n'y a quand même pas eu show médiatique, personnage un peu monté en épingle, héros médiatique, Robin des Bois, que sais-je, Zorro, Forrest Gump, enfin bon.
Ouais, les chaînes d'information en continu ont joué un rôle là-dedans, parce que l'histoire de Kerviel, c'est une histoire qui plaît, que vous parliez du pot de terre contre pot de feu, on a presque envie d'y croire. Et à un moment, la marche, cette rencontre avec le pape, qui a été présentée de façon totalement fallacieuse par David Koubi.
On va y revenir, David Koubi, c'est l'avocat. Hein.
Tout ça, à un moment, dans certains médias, a pris le pas sur l'information réelle, sans aucun souci de contradiction, qui est pourtant l'essence même de notre métier, Dominique vient de le rappeler. Jérôme Kerviel, c'est un homme qui a été condamné, il a le droit de dire ce qu'il veut pour... Il plaide l'innocence encore, il a le droit de dire ce qu'il veut. Il peut dire que Jérôme Kerviel n'existe pas, que c'est un hologramme créé par la Société Générale, par exemple. Pourquoi pas ? Il peut dire n'importe quoi, il peut dire que c'est un ami personnel du pape. Moi, ça en soi, c'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est que nous, derrière, on est là quand même pour rappeler aux gens d'abord pourquoi il marche. Parce qu'on voit un homme qui marche, enfin, il faut quand même rappeler à chaque fois. Alors c'est peut-être un peu fastidieux de rappeler quand même qu'il a été condamné, rappeler que ce qui a été vérifié quand même, des journalistes ont vérifié que cette audience avec le pape, cette rencontre avec le pape n'était pas,
une
audience au sens où on l'entend d'habitude. Les correspondants, le chroniqueur religieux du Figaro était sur place, il a vérifié le jour même, il a dit que non. Le journal La Croix aussi, qui est bien informé, voilà. Et tout ça, encore une fois, il y a d'un côté le cirque, le droit de chacun de se défendre comme il veut, on peut le qualifier. Moi, je ne mets pas de jugement de valeur là-dessus. Il a le droit. Mais nous, on a le devoir derrière de rappeler les faits.
Pauline Groll, Politis, votre sentiment sur ce show médiatique ? Est-ce qu'effectivement, parce qu'on est en présence d'un bon feuilleton, parce qu'on a un personnage qui a un petit côté comme ça, monté en épingle, Robin des Bois, pot de terre, tout ça ?
La question, je pense, dans l'affaire Kerviel, c'est qu'il y a Jérôme Kerviel qui est donc condamné par la justice, et il y a l'affaire Kerviel médiatique, et qui, là, pour le coup, Jérôme Kerviel est devenu un symbole. Et donc, je pense que s'il y a eu un engouement médiatique autour de cet homme-là, c'est parce qu'il symbolise beaucoup de problématiques qui sont
personnage
dans notre société.
Personnage symbolique, voilà. Personnage un peu iconique.
Voilà, donc à la fois, ce week-end aussi, c'est un peu le point d'orgue de 6 années de relations un peu en dents de scie avec les médias. Donc là, moi, je trouvais qu'effectivement, il y avait une surmédiatisation, on ne peut pas le nier. Mais qu'en même temps, ça a été plutôt réussi d'un point de vue de communication. Parce qu'on voyait Jérôme Kerviel comme ça, encerclé par tous ces médias. Et même si lui, effectivement, est acteur de cela, il s'est aussi montré un peu comme victime des médias. Et on a vu d'ailleurs David Koubi interviewé par Yann Barthès au Petit Journal, qui a explicitement dit que, je crois que c'était le Figaro... et puis peut-être France 2. En tout cas, il s'est placé comme une victime des médias, comme il a été une victime auparavant du système judiciaire et comme il a été une victime de la Société Générale.
On va parler de l'aspect comme dans un instant, mais je voudrais juste qu'on entende l'épilogue, hein, finalement, dans la nuit de dimanche à lundi. Ça donne toujours dans le JT 20h de France 2, mais cette fois 24 heures plus tard, donc lundi soir.
En France, il a entretenu le suspense depuis plusieurs jours. Jérôme Kerviel a finalement franchi la frontière. Il est rentré en France. L'ex-trader a été immédiatement incarcéré. Audrey Richier, Virgile Liadeau.
À peine entré en France, Jérôme Kerviel voit s'approcher un policier.
Alors on va parler de l'aspect com du sujet que vous évoquiez à l'instant, Pauline Groll, mais j'avais juste une question avant, plus largement sur le personnage Kerviel. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on est aussi dans un de ces exemples révélateurs où les médias s'intéressent davantage à un destin individuel qu'à une question collective ? Parce qu'il y a une question collective derrière, quand même. Ah bon, on va en parler d'ailleurs, la finance, etc. Mais il y a une passion pour le destin individuel. Est-ce qu'on n'est pas typiquement dans un cas de figure de ce genre, Dominique Verdeillant ?
Oui, mais je voudrais aussi qu'on arrête de focaliser sur... la responsabilité, même si c'est légitime, des médias. Il y a aussi une curiosité de l'opinion publique. Je suppose que comme moi, alors peut-être un peu moins parce que vous ne suivez pas ce genre d'affaires, mais je pense que c'est le cas de Stéphane, je suppose que pendant le procès et probablement dans la semaine, on lui a demandé, qu'est-ce qui se passe ?
Bon, il va être envie de savoir qui est Kerviel, bon, c'est clair.
Il y a une curiosité, donc c'est aussi quand même notre rôle, alors en le faisant le plus complètement possible, le plus honnêtement possible, avec effectivement le souci du contradictoire, de donner ces éléments d'information. Ne pas le traiter, alors après il y a le volume, vous avez parlé du nombre de caméras, c'est vrai, mais ça c'est tout, toutes les affaires judiciaires aujourd'hui, quand vous les suivez, vous avez un nombre de caméras et un nombre de journalistes de plus en plus important, parce que le nombre de médias est de plus en plus important, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a les agences, parce qu'il y a tout ce que vous savez mieux que moi. Bon, voilà. Mais il y a aussi quand même, je crois, notre rôle de répondre à une curiosité
a fortiori quand
légitime.
C'est une histoire individuelle.
Mais
on voit bien cette passion pour l'histoire individuelle.
Tous
elle
les
est
procès,
très présente dans
les
médias.
Les affaires judiciaires, c'est des histoires individuelles, dans le fond. Je veux dire, à ce moment-là, on peut dire la même chose d'un tueur en série. C'est une histoire individuelle.
Sauf que ce sont aussi des histoires individuelles derrière. Alors oui, que là, dans le cas d'espèce, c'est plus qu'une histoire individuelle. Il y a quelque chose
début,
un peu plus collectif qui nous engage tous, quand même, y compris le contribuable, d'ailleurs.
Au début, il y a quand même... Le début, c'est comme un trou de 5 milliards dans la caisse d'une banque. Et après, il y a toute une, au fil des années, des mois, tout un processus qui fait, et Jérôme Kerviel en est un des artisans essentiels, par sa communication dès le début, par la publication de son livre, par son changement d'avocat. Tout ça fait qu'on essaye, comme vous le dites, d'attirer l'attention sur le sort d'un homme, qui est un sort tout à fait d'ailleurs, qui mérite la compassion. Et, tu sais, personne ne se réjouit que Jérôme Kerviel soit en prison. Enfin, je ne pense pas. Enfin, pas moi en tout cas.
Alors la com, justement, puisqu'on en parle, eh bien, voici cet homme dont vous parliez à l'instant, David Koubi, l'avocat de Jérôme Kerviel.
Il a marché plus d'une semaine sans que personne soit au courant. Ce n'est pas nous qui avons médiatisé cette démarche, c'est des journalistes italiens qui ont fini par le savoir quand nous étions à Rome et quand il a quitté Rome à pied. Moi, je ne suis pas gêné par le sujet coup de com' parce que, intimement, je sais que ça n'en est pas un et que c'est une démarche qui est personnelle parce qu'il est au bout. Lui a changé de système de valeurs. Il sait aujourd'hui qui il est et après 6 années, je demande simplement à vos téléspectateurs de réfléchir une seconde à ce qu'il a enduré.
Donc David Koubi, mi-mars sur BFM Télé, au début de la marche hein, de Jérôme Kerviel. C'est pas de la com, dit son avocat. Enfin, en même temps, on a l'impression d'être en présence d'un avocat qui est un professionnel de la com. Je me trompe ou pas, Pauline Grolle ?
C'en est un. D'ailleurs, il est spécialisé, je crois, dans le droit de la presse. Donc il connaît très bien tous les médias de la place de Paris. Mais bon, cette marche, effectivement, c'est un coup de com. Ça répond aussi peut-être à des aspirations réelles de Jérôme Kerviel de réfléchir. On ne peut pas lui ôter qu'il y ait un peu d'authenticité dans cette démarche. Néanmoins, Koubi, il le dit franchement, en face de la Société Générale qui aurait mis 100 millions d'euros, il parle de 100 millions d'euros de communication pour détruire l'image de Kerviel. Enfin, ça, je vous donne l'explication de Koubi. Il n'y a pas de raison qu'eux, ils ne luttent pas aussi avec leurs propres armes. Enfin, voilà, je veux dire, Jérôme Kerviel, c'est un bon produit de communication d'une certaine manière, parce que c'est quelqu'un qui est assez lisse, qui a tué personne, comme on disait tout à l'heure. Il ne s'est pas enrichi personnellement non plus dans le cadre de cette affaire. Et finalement, tout le monde peut s'identifier à Jérôme Kerviel. Et ça, il y a vraiment du storytelling qui a été fait autour du petit gars de Pont-l'Abbé, perdu dans son Finistère, qui monte à Paris avec un master, qui se retrouve dans le sein des seins de la Société Générale, alors qu'il n'a même pas 30 ans. Donc, je veux dire, c'est quand même quelqu'un auquel
le
on peut...
Le pot de terre, l'histoire du pot de terre,
voilà,
on
exactement.
Est quand même beaucoup là-dedans.
Mais c'est renforcé parce que lui-même, c'est en tout cas... Pour les journalistes, moi j'ai eu au téléphone, c'est quelqu'un d'assez sympathique et c'est quelqu'un d'assez lisse, assez bel homme, etc. Donc c'est assez agréable de s'identifier à lui.
Important, même, important en termes d'image quand même. Alors justement, ouais. on va s'arrêter sur deux moments, justement deux images qui quand même en disent long sur le fait que dans cet épisode, il y a quand même beaucoup de communication, peut-être plus que d'information, je ne sais pas. Mais premier exemple avec vous, Éric Chavroux, qui décortiquait chaque semaine les images marquantes de l'actualité, c'est cette, on va l'appeler la déclaration solennelle du bord de mer, c'est ça, c'était samedi.
Voilà,
enfin, c'est journée.
Le cadre idyllique, fin de journée, grand bleu, parce qu'on a la Méditerranée et le ciel ton sur ton pour cette journée encore ensoleillée. On est côté italien, à quelques mètres de la frontière. Et puis Jérôme Kerviel se distingue au milieu de cet océan de bleu avec son fameux blouson rouge. Ça, c'est pour le champ de cette déclaration, ce qu'on a beaucoup vu grâce aux télévisions et à beaucoup de photographes. Mais certains ont aussi révélé le contre-champ. Et là, on reste saisi par la marée d'objectifs, de caméras qui encerclent le trader, son avocat aussi, mais également un homme à la chemise blanche. Et là, c'est le petit journal qui a révélé l'information lundi. C'est son communicant qui a un peu organisé tout ça. C'est cette étape-là, dans ce week-end, finalement, moi, ça m'a rappelé cette image de Nicolas Sarkozy à cheval
en Camargue
avec le tracteur et tous les photographes dessus. Ce qui est à noter aussi, c'est que Kerviel, à ce moment-là, ne marche plus. Il n'est plus en mouvement, en fait. Et au final, il reste une très belle carte postale baignée de liberté qui inspirera peut-être le film qui est déjà en train de se préparer sur son destin.
Le blouson rouge avec le fond bleu. Deuxième exemple, et après on fait réagir nos invités, c'est dimanche soir, extrait à nouveau du JT de France 2 20h dimanche. On aurait pu prendre n'importe quel JT, hein. C'est juste parce que vous êtes là, Dominique Verdaillan, qu'on prend France 2. Le sujet d'ouverture donc de Anne-Charlotte Inet.
Il était 19h, sac sur le dos, rasé de près. Jérôme Kerviel reprend le chemin de la France.
Vous revenez en France ?
Voilà. On va pas aller plus loin parce que juste, et là encore c'est le petit journal de Canal+ qui a fait un boulot assez intéressant là-dessus, c'est l'horaire, c'est-à-dire que 19h, sortie de Jérôme Kerviel de son hôtel, dans tous les JT à 20h ça donne ça, mais là encore en fait l'horaire de départ a été avancé, ça devait être plus tard, mais les télévisions voulaient avoir le sujet pour 20h, donc ils ont demandé à ce qu'ils sortent à 19h. En même temps c'est une pratique assez classique, hein, en termes de communication, mais on voit bien que tout ça nous dit une chose, c'est que c'est quand même d'abord une opération de communication, et on se demande quand même où est l'information et le journalisme dans tout ça, Stéphane Durand-Souffle.
Quand on entend Maître Koubi dire que ce n'est pas de la com, on se tient les côtes. Maître Koubi n'est que dans la communication. Il est sans doute avocat, mais c'est aussi une sorte d'impresario. C'est un impresario de lui-même, c'est un impresario de son client. Toute son attitude pendant le volet judiciaire, notamment au procès, est une mise en scène de sa propre... Il avait mal au dos, donc il a mise en scène sa propre douleur avec une canne. Il venait avec une canne. Après, il est arrivé pour plaider avec un énorme cocard et une salle remplie de sa claque qu'il a acclamée à la fin de sa plaidoirie, ce qui est, bon, judiciairement parlant, je vous dis, c'est catastrophique. Hein, mais si vous voulez, toute cette démarche de communication permanente, de cette volonté d'abrutir les médias de communication définitive est aussi une manière de masquer des lacunes judiciaires absolument terribles.
Oui, et regardez, ça marche, les médias embrayent. Oui, donc, une fois, où est l'info dans ça tout marche, ça là, est-ce que l'info n'est pas à la remorque de la com
Oui, enfin, il est avocat. Donc ça marche, oui, mais le client, il a pris quand même la peine maximale. Il a pris 5 ans de prison.
Certes. Je parle de l'épisode du week-end dernier. Là.
Ah oui, l'épisode du week-end
Dominique
dernier.
Dominique Verdaillan.
Non, pardon, vous allez dire que je suis obsessionnel, mais quand vous dites ça marche, encore une fois, chaque média prend du recul. C'est vrai que je traite de la chronique judiciaire depuis un certain nombre d'années. Moi, c'est la première fois, et je pense que c'est Stéphane, c'était pareil pour lui, où nous avions un prévenu, donc avant son procès, qui se présentait avec un avocat, mais un attaché de presse. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le cadre judiciaire. Je pense qu'il y a un moment, en tout cas les chroniqueurs judiciaires, ceux qui ont suivi les procès, n'ont pas été dupes.
Et puis les magistrats... C'est un peu too much, comment dire en anglais, non ?
Oui, et ouais. Puis les magistrats ne se sont pas laissés avoir non plus. Il est épinglé, évidemment, pour les faits qu'il a commis, mais il est épinglé aussi pour... la communication et la médiatisation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, judiciairement, s'est retourné contre lui. On s'est même demandé pendant la cour d'appel, pendant le procès en appel, si sa médiatisation et le comportement, d'ailleurs, de son avocat ne faisaient pas lever, si vous me permettez l'expression, un peu lever le compteur.
Pour finir encore sur la stratégie de communication de Jérôme Kerviel, il faut qu'on s'arrête quand même sur un sous-thème précis dans l'arborescence, thème assez construit quand même. Vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure en évoquant le pape. C'est cette thématique de la rédemption du pèlerin.
Pas après pas, il se reconstruit sur le chemin qui le mène de Rome à Paris, 1400 km. Sac à dos de 12 kg sur les épaules, 15 à 30 km par jour, une sorte de rédemption, mais aussi une renaissance pour Jérôme Kerviel, 6 ans après le début de l'affaire.
Donc au début, j'ai commencé sans trop savoir pourquoi, mais avec l'intime conviction que c'était nécessaire pour moi. Ça fait 6 ans que je suis enfermé. Et là, depuis 2 semaines, je suis, vous voyez, regardez autour de vous, je suis dans la nature, j'ai les oiseaux qui chantent et je me vide totalement de ces 6 dernières années.
Depuis 2 semaines...
Ouais, extrait cette fois d'un sujet de BFM Télé de mars dernier, au début de la marche, le pèlerin, le chemin de croix, les petits oiseaux, la nature, les prières, la rédemption. On ne compte pas quand même les sujets de médias qu'on a vu passer, qui nous ont presque livré une passion selon saint Jérôme. C'est quand même assez étonnant, avant le, non, je sais pas,
c'est d'autant plus étonnant que cette thématique n'a jamais été abordée regardé avant. Mais après tout, Jérôme Cavel a pu être sincèrement touché par, par une forme de foi, une foi authentique, et qui l'a poussé à aller rencontrer le Saint-Père au Vatican. Ça, c'est pas... Mais après, faire croire qu'il a été invité...
Il y a quand même une instrumentalisation de cette thématique.
Bah, évidemment.
C'est assez évident.
Bah, évidemment.
Ce qui est intéressant, Paul, c'est quand même que là, on voit que les journalistes colle complètement à la communication
carrière. C'est ce que je dis.
Voilà, donc je veux dire, il n'y a aucun recul. Après, on le voit parce que c'est vraiment grossier et puis c'est presque ridicule. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'autres situations dans la vie médiatique où les médias collent à des stratégies de communication, on ne le sait pas forcément. Mais moi, ce que je voulais dire quand même, c'est cette marche. Pour moi, ça n'était pas extrêmement bien réussi en termes de communication parce que presque Carvial est devenu un peu trop une image de papier glacé. Il est passé dans Closer. Dans le Nouvel Obs, il détaillait son look. Style magazine féminin. Tout à l'heure, on écoutait, la journaliste qui disait qu'il avait la barbe rasée.
Qui venait de se raser, oui. C'est...
Bon, donc effectivement, Carvial et Koubi, sans doute, ils surcommuniquent. Après, de l'autre côté, il y a aussi les médias qui acceptent, qui en rajoutent et qui font leur beurre dessus. Quoi, je veux dire.
Vous savez,
Stéphane Durand-Soufflant.
Je trouve que Jérôme Carvial est un peu dans cette histoire et on ne peut pas lui reprocher parce qu'il est inexpérimenté. Mais c'est un peu l'apprenti sorcier. Depuis le début, au tout début de l'affaire, il parcourait les rédactions chapeautées par Madame Chaplotte. Il rencontrait à l'époque tous les journalistes de la place de Paris, enfin un dans chaque rédaction. Il en avait vu en 30 ou 40, en leur promettant, laissant éventuellement entendre qu'ils auraient l'exclusivité de ces révélations. Tout le monde voulait l'interview de Jérôme Carvial. Mais c'est complètement délirant. C'est la plus mauvaise stratégie. On ne peut pas mettre toute la place de Paris en off, en promettant qu'un jour, peut-être, ils auraient le truc. Alors, en plus, ils disaient aux uns aux autres, alors, j'ai écarté machin parce que c'est un truc qui ne me plaît pas. Il reste toi et machin et truc. Finalement, à la fin, ils étaient trois. Il s'est fait griller. Le Parisien a lâché le morceau. Mais c'était intenable. C'est une stratégie délirante. Et je vous dis, il y a un côté apprenti sorcier dans cette histoire.
Stéphane Durand-Soufflant, Le Figaro, Pauline Grohl, Politis, Dominique Verdeillant, France 2 sont ce matin dans Le Secret des Sources pour évoquer l'affaire Carvial. Dans un instant, la parole au juriste Fabrice Lorvaux, l'avocat spécialiste du droit des médias, parce que dans cette histoire, redisons-le encore une fois, il y a quand même une décision de justice définitive et c'est d'ailleurs ça qui a mis un peu en rogne le ministre des Finances le week-end dernier sur RTL.
On s'intéresse beaucoup, pour parler beaucoup, de quelque chose qui ne me paraît pas avoir cette importance-là. Parce que si on regarde les choses en face, Monsieur Carvial est un condamné. Monsieur Carvial est un délinquant. Et un délinquant condamné par la justice française pénalement, je ne parle pas des questions civiles, c'est-à-dire combien a-t-il fait perdre à sa banque, quelle est la responsabilité de la banque dans le processus, et il y a des responsabilités de la banque dans le processus. Mais c'est un escroc. L'escroc est attrapé, l'escroc est condamné, l'escroc doit bien entendu purger sa peine. Et on est là, il est comme un héros aux portes de la France à 20 000 en disant viendrai-je, ne viendrai-je pas, alors qu'on savait très bien qu'il viendrait. Qu'on arrête avec ce cinéma.
Michel Sapin, dimanche dernier sur RTL. Fabrice Lorvaux, éclairez-nous sur le terrain juridique. On est en présence, dans le cas d'espèce, de médias qui donnent abondamment la parole à une personne condamnée, voire presque prennent son parti dans certains cas, enfin de façon un peu implicite. Et on est en présence d'une décision de justice définitive. Donc, sur un homme condamné pénalement, pour, rappelons-le quand même, abus de confiance, faux usage de faux, introduction de données frauduleuses dans un système informatique, etc. Enfin, c'est pas un enfant de cœur. Ma question, c'est est-ce que les médias peuvent implicitement ou pas jeter le discrédit sur une décision de justice, a fortiori quand elle est définitive?
Tout ça pose la question des limites de la liberté d'expression. On sait que la liberté d'expression, elle n'est ni générale ni absolue et qu'elle peut connaître des limites lorsqu'elles sont posées par la loi. Et effectivement, en droit français, vous avez l'interdiction de jeter le discrédit sur une décision de justice. On peut citer deux textes, la diffamation envers les tribunaux qu'on trouve dans la loi de la presse de 1881, et spécifiquement sur le discrédit envers la justice, c'est l'article 434-25 du Code pénal. Alors pour ce dernier texte, ce qui est interdit, c'est le fait de chercher à jeter le discrédit publiquement sur un acte ou une décision de justice, mais dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice et à son indépendance. Donc, pour reprendre une formule traditionnelle dans les décisions qui sanctionnent cette infraction, ce qu'on veut empêcher, c'est qu'on puisse porter atteinte à la justice, considérée comme une institution fondamentale de l'État, dans son autorité ou dans son indépendance. Voilà. Donc ça, c'est le texte tel qu'il existe.
Et du coup, il y a eu des exemples, enfin des cas où il y a eu, par exemple, des condamnations.
Tout à fait.
La presse,
alors, mais il faut vraiment qu'on se positionne par rapport à la justice en utilisant un caractère caractère grossier, outrageant ou excessif. Je peux vous citer une condamnation de 62, a été condamné le fait de parler d'une décision comme étant, je cite, « un chef-d'œuvre d'incohérence, d'extravagance et d'abus de droit, tel que rarement les annales judiciaires françaises, pourtant bien pourvues d'ordinaire en pareille matière, n'en ont recelé ». On peut citer aussi une décision qui aurait été rendue par, je cite, « des juges sans jugeote qui devraient réfléchir avant de prendre des décisions à tort et à travers ». Et pour terminer, on a une décision, dire d'une décision qu'elle était bien celle du patronat et qu'elle frappe ceux qui ont le courage de s'opposer au patron. Voilà. Tout ça, eh bien, ça a été condamné par la justice, ça constitue un délit pénal parce qu'on porte atteinte à l'institution judiciaire et à son indépendance.
Dans le cas d'espèce, alors, est-ce qu'on peut, peut critiquer, prendre le parti de Kerviel, critiquer la décision de justice ? Alors qu'elle est définitive.
Alors, dans le cas de Kerviel, on a eu là tous les exemples qui ont été donnés sont des commentaires, on s'intéresse. Bon, c'est pas parce qu'effectivement quelqu'un est condamné que la presse n'a pas le droit d'en parler. Par contre, les expressions critiques, on les a plus trouvées dans la presse écrite, dans Mediapart, aussi dans une chronique du Monde, où là, on a considéré qu'effectivement, on a dit que M. Kerviel n'avait pas eu un procès équitable, que c'est la raison d'État qui avait triomphé et qu'on était un peu comme la marche qu'il avait lancée contre la tyrannie des marchés, que c'était les marchés financiers qui avaient imposé au gouvernement et à la justice la décision. Voilà. Donc là, effectivement, on commence plus sur ce genre de propos, on commence quand même à arriver vers l'infraction telle qu'elle est prévue, mais encore faut-il que le ministère public engage des poursuites et à ce jour, aucune poursuite n'a été engagée.
En filet, M. Sapin, Dominique Verdeillan, d'escroc. Kerviel d'escroc, il est dans les clous ou pas ?
Parce que le vocabulaire est inapproprié, a priori, hein. Escroc.
Il n'a pas été condamné pour escroquerie.
Voilà, il a été condamné pour abus de confiance. Effectivement, si M. Kerviel veut intenter une action en diffamation, pourquoi pas ? Mais bon, je pense qu'il y a un problème de qualification, effectivement, au niveau de l'infraction reprochée. Mais il n'en demeure pas moins que M. Kerviel est condamné pénalement. Finalement, pour le moment, sur la base d'une décision définitive, reste à savoir s'il fera un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, justement parce qu'il n'aurait pas eu un procès équitable.
Alors, en filigrane, on a la vieille question de philo, le bac approche. Là, on a la vieille question de philo, la morale contre le droit. Enfin, je veux dire, est-ce que la presse... Alors, évidemment, on va penser tout de suite à Zola et J'accuse, mais sans s'en remonter peut-être jusque-là. Mais est-ce que la presse, si elle estime, si elle a la conviction morale que Kerviel est un lampiste, est-ce qu'elle a le droit, moralement, d'aller contre le droit et la décision de justice ? C'est ça aussi la question, hein. Fabrice Lorvaux, puis après je vois que Stéphane Durand-Soufflant veut réagir.
Enfin, l'interdiction de porter atteinte à l'autorité de la justice, c'est une interdiction qui est légale. C'est une interdiction, pour ma part, que je considère comme étant utile, parce qu'effectivement, il ne faut pas jeter le discrédit sur les juges. La justice est un idéal. C'est un idéal peut-être difficile à atteindre, mais il ne faut pas commencer par toujours considérer que dans son ensemble, la justice serait corrompue. Mais effectivement, d'un autre côté, c'est une interdiction. Le texte pénal peut être, par exemple, dangereux, surtout si on rappelle effectivement le J'accuse, puisque rappelons quand même que Zola a été poursuivi et condamné pour diffamation envers les tribunaux à cause de son J'accuse, alors qu'il a quand même permis, grâce à cet article, de retourner le procès. Dreyfus était innocent. Oui. Donc, effectivement, ça, c'est effectivement la limite. Et aujourd'hui, M. Kerviel, lui, reconnaît tout à fait qu'il est coupable. La seule chose, c'est qu'il dit « je ne suis pas tout seul ».
Je ne suis pas le seul coupable. Stéphane Durand-Soufflant.
Vous parliez d'un plan moral, mais les journalistes n'ont pas à faire de la morale. On a le droit d'être convaincu de ce qu'on veut. Mais si on fait un article pour dire qu'il y a une erreur de justice, très bien, il faut le prouver. Zola, dans J'accuse, il apportait les preuves de la machination. Jusqu'à présent, moi, j'ai vu aucune preuve de la machination contre Kerviel. Je vous dis encore une fois, Kerviel a été défendu par de très grands avocats. Il a été condamné, malheureusement. Mais tout ce qu'on a... son avocat, David Koubi, demande des immunités pour d'éventuels témoins. Mais qu'ils mettent sur la table les preuves de ce qu'il avance, la presse le reprendra et vous verrez qu'à ce moment-là, ça ne sera plus la peine d'immunité pour les témoins.
Pour rester encore un instant sur ce terrain juridique et judiciaire, on est frappé par le fait que l'emballement médiatique du week-end dernier a fait beaucoup causer dans le milieu judiciaire. Et c'était flagrant d'ailleurs, y compris ce qui est assez rare, Éric Chavroux, sur les réseaux sociaux, où on a vu un certain nombre de magistrats beaucoup causer depuis samedi dernier sur ce sujet-là.
Oui, des avocats et des magistrats qui se sont emparés de Twitter, qui est, on le sait, on l'a beaucoup dit ici, l'outil préféré des journalistes, donc c'était pas innocent. Il s'agissait de mettre les choses au point et puis, par exemple, d'éviter que la télévision ne l'emporte sur la Cour de cassation, comme l'a écrit...
La vérité médiatique ne l'emporte sur la vérité judiciaire.
Comme l'a écrit l'un d'eux de façon anonyme. Et il s'agissait de rappeler, de défendre ce qui a déjà été tranché, quitte à paraître lapidaire. Un exemple, sous le pseudo « cause toujours », l'avocat Erwan Lemorodec a lancé sur Twitter deux liens vers l'arrêt de la Cour de cassation et vers celui de l'arrêt de la Cour d'appel, en concluant son message, je cite, « Lisez et ne revenez qu'après ». Alors ce message, il a été beaucoup partagé, notamment par deux professionnels du droit, et puis il a déclenché une discussion avec un tweetos qui reconnaît que Jérôme Kerviel est condamné, qui doit exécuter sa peine, mais qui demande à l'avocat si on doit absolument en rajouter dans le vindicatif et si le tribunal des réseaux sociaux est nécessaire, utile et bon. Réponse de l'avocat qui a renvoyé ses abonnés aux deux arrêts, il ne faut pas inverser, c'est Kerviel qui a joué l'opinion publique contre la justice.
Il y a une autre joute, Eric, cette fois entre un magistrat en disponibilité, je crois, et l'avocat de l'ancien trader.
Oui, et pas n'importe quel magistrat en disponibilité, puisqu'il s'agit de Guillaume Didier. C'est lui qui a créé, puis occupé pendant 3 ans, le poste de porte-parole du ministère de la Justice, ancien juge aussi. Il a renvoyé via un tweet à une tribune qu'il a publiée sur Jérôme Kerviel et le défaut de communication judiciaire, tribune publiée par le Huffington Post. Et puis s'en est suivi donc un échange à fleur et moucheté sur le réseau social avec David Koubi, qui s'est conclu par une intervention de David Koubi. « Dommage d'avoir écrit avant de vous être documenté, puisque vous allez devoir le faire. » Je signale pour finir aussi une polémique qui a eu lieu là, ces derniers jours, entre le journaliste Daniel Schneiderman et un tweetos célèbre dans le milieu, c'est
Maître Eolas.
Et aussi une juriste devenue journaliste, Olivia Dufour. Elle a écrit un livre d'ailleurs sur cette affaire. Et elle assène sur Twitter en 3 messages que dans chaque rédaction, il y a eu un spécialiste judiciaire qui a suivi le procès, mais que malheureusement, sur le terrain ce week-end, ce sont des généralistes qui ont été envoyés, et c'est pour ça qu'on a tout ce
barnum. Et qui n'avait pas toujours une connaissance parfaite de l'ensemble du dossier.
Et qu'on a en fait 2 traitements bien différents entre les spécialistes et les généralistes.
Stéphane Durand-Soufflant, Le Figaro, Pauline Grohl, Politis, Dominique Verdeillan, France 2, sont dans Le Secret des Sources sur France Culture. Comme toujours, vous réécoutez, vous téléchargez, vous commentez sur franceculture.fr. Les médias sont-ils manipulés dans l'affaire Kerviel? On vient d'explorer un peu le volet de la manipulation des médias par Jérôme Kerviel et ses défenseurs. On va dans un instant explorer l'autre hypothèse, celle de la manipulation des médias par la Société Générale et les adversaires de Jérôme Kerviel. Le tout après une petite gourmandise musicale vieille d'un demi-siècle, mais elle est de circonstance.
Si j'avais les millions, j'irais. Je travaillerai moins fort. Chiri piri 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 boum. Si j'avais quelques mini millions, chiri piri 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 bon, je bâtirais en pleine ville une maison haute avec des chambres sans compter, avec un toit de tuiles et des vrais parquets.
Dalida, si j'avais des millions. Le week-end dernier, on a donc vu des médias audiovisuels se prêter souvent de bonne grâce au show médiatique de Kerviel. On a aussi vu en face des voix, on l'évoquait, se prêter peut-être un peu vite aussi à la dénonciation du show, parce que le dénoncer, ça peut être aussi une façon de refuser de se poser des questions sur le sujet de fond. Donc les zones d'ombre, quand même, il y a certaines zones d'ombre autour de la Société Générale dans ce dossier. Alors certes, Kerviel a été condamné et est condamné, dont acte. Certes, il fait de la com pour changer d'image, dont acte. Reste que les décisions de justice sur le sujet continuent de laisser une partie de la presse et une partie de l'opinion publique pantois, même si la Cour de cassation, on le rappelait, a annulé les dommages et intérêts, ce qui n'est pas rien. Donc pour prendre la question inverse à celle posée en première partie d'émission, est-ce que les médias dans toute cette affaire depuis 6 ans n'ont pas été surtout manipulé par une Société Générale qui n'aurait pas nécessairement intérêt à ce que toute la vérité se sache? Pauline Grohl, Politis.
Oui, ben, je pense que ça, c'est la thèse de nombreux hommes et femmes politiques, finalement. Parce que ce qui est intéressant, c'est que cette affaire Kerviel, il y a ce qui s'est passé au tribunal, ce qui se passe au niveau des médias et ce qui se passe au niveau de l'opinion publique. Où, en fait, c'est ce que je disais au départ, ce qui est l'intérêt de cette affaire, c'est que c'est un symbole. Et elle force le débat, cette affaire. Elle force le débat sur le rôle des banques. Puisqu'en fait, Kerviel, c'est l'incarnation de la finance casino. Et finalement, quand on a découvert l'affaire Kerviel, c'était en pleine crise des subprimes. Et finalement, cet individu, il a incarné quelque chose qui était difficile à comprendre pour l'individu moyen, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la finance. Cette affaire, elle est intéressante parce qu'elle est heuristique d'une certaine manière. Mais en même temps, on sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche sur le fait que c'est quand même au départ aussi, Kerviel, c'est le salarié d'une banque, donc il a un employeur, il y a un lien de subordination entre le salarié et l'employeur, et donc cette affaire...
C'est la vieille question, comment est-ce que la hiérarchie pouvait ne pas savoir, au moins un minima, qu'il y avait des prises de position plus que hasardeuses.
Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, cette affaire, elle nous renvoie à notre situation, à notre condition de salarié hyper moderne, dans l'entreprise hyper moderne, à la question du management par objectif, parce qu'on peut très bien imaginer que la banque a dit à son employé, écoute Coco, tu me rapportes tant de millions, enfin je fais, hein. La manière dont tu t'y prends, ça ne me regarde pas, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Et d'ailleurs, le N+1 de Kerviel, Éric Cordel, ne savait pas ce que faisait...
C'est l'un des personnages dont on aimerait bien savoir plus de choses, enfin on aimerait bien l'entendre.
Lui-même, il l'a dit, il l'a dit à la barre, je ne connaissais pas le métier. Donc, et en fait, juste 5 secondes, c'est vrai que Kerviel, il nous renvoie à nous, même aux gens qui travaillent à la poste, par exemple, qui doivent faire du chiffre, qui doivent s'asseoir sur leur morale pour vendre des enveloppes qui sont plus chères que ce qu'ils ont en magasin, pour faire le chiffre. Et finalement, moi, je trouve qu'il nous renvoie vraiment à notre condition de salarié.
Mais donc, la question en filigrane qui nous intéresse évidemment dans le secret des sources, c'est est-ce que la presse est allée chercher suffisamment de ce côté-là? C'est-à-dire, il y a le travail de la justice, dont acte, c'est une chose, mais est-ce que la presse est allée suffisamment chercher justement les Éric Cordel, l'homme de la chambre de compensation, M. Solveig, etc. Est-ce qu'elle est allée fouiller suffisamment?
On en a entendu beaucoup au procès. Pour ce que disait Pauline, il faut quand même rajouter que Jérôme Kerviel est sans doute des objectifs et il ne faut quand même pas oublier, parce que ça joue un petit rôle, qu'il a fait 900 faux pour enfumer la banque. Donc, et pour en aller directement à la banque, moi, la Société Générale, à titre personnel, je ne la trouve pas très sympathique comme victime. Si vous voulez, ça me tire pas les larmes. Hein. Ce n'est pas une pauvre maman dont on a écrasé les deux enfants.
Elle a été condamnée par la commission bancaire.
Par la commission bancaire à 4 millions d'euros de pénalité pour avoir mal surveillé ses trucs.
Bon, ce qui paraît ridicule à côté des 5 milliards.
Je pense que la peine maximale, c'est 5 millions, je crois, la commission bancaire. Elle a pris 4. Son attitude a été, je trouve, assez mauvaise du début. On le disait tout à l'heure, quand on parle de terroriste, en parlant de Kerviel, c'est évidemment totalement inapproprié, disproportionné, et c'est pas malin. Au premier procès, la Société Générale était représentée par 3 avocats. La moitié de la salle d'audience était occupée par des chargés de com, de jeunes scribes qui prenaient en note. Ils donnaient l'impression qu'ils étaient chez eux. C'est leur faute, hein, etc. Mais je crois qu'il y a aussi une chose, je voulais le dire tout à l'heure, parce que ce reproche qu'on fait au juge éventuellement d'être à la solde du grand capital, je crois que c'est méconnaître profondément la magistrature. Parce que quand on connaît un peu les magistrats, on sait que ils ont en horreur justement la puissance de l'argent. C'est quelque chose qui les énerve énormément. Donc, je pense que cet argument n'est pas bon.
Mais sans parler du travail de la justice, parlons du travail des médias. Est-ce qu'ils ont, encore une fois, Dominique Verdaillan, suffisamment enquêté sur ce sujet? Est-ce que, par exemple, Martine Orange, dans Mediapart, on lui avait proposé de venir, mais elle ne pouvait pas ce matin, écrivait cette semaine, il y a des témoins qui ont peur et qui ne veulent pas parler aujourd'hui sur ce sujet-là, dans l'entourage de Kerviel ou dans sa hiérarchie, peut-être les N+1, je ne sais pas. Est-ce que la presse les cherche suffisamment?
Je crois que c'est un dossier trop compliqué pour que la presse se lance dans ce genre d'investigation. On ne peut pas comparer quelque chose qui va être une goutte d'eau d'une enquête, aussi fiable qu'elle pourra l'être, au travail qu'évoquait il y a un instant Stéphane, qui est celui d'un juge, Van Ruymbeek, qui a passé des mois, pour ne pas dire des années, avec des enquêteurs.
En même temps, c'est un peu le boulot de la presse d'aller chercher ce genre de trucs.
Enfin, oui, mais un peu, quand même. Reconnaissons que dans certains dossiers, et je pense que les dossiers financiers, c'est très difficile.
Parce qu'il y a un problème de compétence.
Stéphane l'évoquait tout à l'heure, Jérôme Kerviel a cherché à rencontrer de nombreux journalistes. j'y suis allé aussi, à ces rendez-vous qui nous étaient donnés. Et comme je ne suis pas très compétent du tout dans la matière financière, j'y suis allé avec un collègue de la rédaction qui est compétent. Les éléments qu'il nous apportait, Jérôme Kerviel, pour nous n'étaient pas suffisamment probants pour pouvoir aller à l'antenne, de prendre le risque, parce que quand vous sortez une info sur France 2, vous prenez un risque énorme. Hein, je veux dire, bon, c'est quand même des millions de téléspectateurs que vous visez. Donc il faut qu'on sorte une information fiable. Je suis désolé, ce qu'on nous apportait n'était pas fiable. Je ne suis pas sûr que si j'avais été chercher ou si nous avions été chercher l'info à la Société Générale ou à un autre canal, une autre source, je puisse dire à ma direction, on y va, je pense que c'est fiable.
On a cette sensation curieuse que d'un côté, il y a Jérôme Kerviel et ses partisans qui causent, y compris à tort et à travers, hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, il y a en fait zéro source. Il n'y a pas moyen d'avoir des infos. Côté Société Générale et que donc opacité, donc voilà, on est coincé.
Je pense
non
que si
Stéphane de Ronsoufflant,
vous savez, il y a quelque chose qui est très simple, ces fameux témoins qui ont peur de parler, David Koubi, Jérôme Kerviel, mais est incarcéré, mais David Koubi, c'est qui ils sont, puisqu'ils n'ont pas qu'ils leur fassent rencontrer des journalistes compétents off dans le secret. Mais faire croire aux gens qu'on est en Corée du Nord et que les témoins qui pourraient dire que la Société Générale n'est pas très honnête seraient, je ne sais pas ce qui leur arriverait. Enfin, il faut quand même rester raisonnable. On est encore dans un état de droit, me semble-t-il. Et mon boulot, moi, je l'ai fait comme je le fais toujours avant le procès Kerviel. Je suis allé voir l'avocat de Jérôme Kerviel, qui était à l'époque Olivier Messner. Jérôme Kerviel était présent. J'étais avec un confrère qui est maintenant parti, qui est Mathieu Delahousse. On a passé des heures avec Messner, qui nous a montré des tableaux, qui nous a expliqué toute sa stratégie. On en a pris bonne note et on lui a dit bah, rendez-vous au procès, on va voir. Et après, on est allé au procès, parce que les procès, ça sert quand même à quelque chose. Je veux dire, tout ce truc de dire aussi, de prendre dans les dossiers. Vous imaginez ce que c'est la procédure Kerviel en poids et en taille. On vous sort un truc, on dit regardez, là, il est bien écrit que je ne sais quoi. Ah oui, seulement quand on est dans la salle d'audience et que l'avocat le sort, mais qu'en face, la contradiction est apportée et qu'on se rend compte que finalement, ce n'est pas si probant que ça, moi, je l'ai vécu. Alors, je ne suis pas un roi de la finance, je suis bien d'accord. Mais,
c'est un problème quand même, c'est ce que disait Dominique Verdaillan à l'instant. C'est-à-dire que pour bien comprendre le dossier Kerviel ou comme a fortiori Clearstream, etc., il faut être expert en transactions financières.
Non, mais non, je ne suis pas d'accord avec vous. Paradoxalement, je pense qu'on peut comprendre ces dossiers-là en les ramenant, sans faire de caricature, à des choses assez simples. Après, effectivement, on peut se perdre dans des détails et des jargons qui sont impraticables pour nous. Mais je pense qu'on comprend énormément de choses parce que dans une salle d'audience, on explique, les avocats expliquent et parlent clairement. Le procureur, la partie civile, les avocats de la défense font leur démonstration et les présidents posent des questions. Et on y répond à ces questions et les témoins sont interrogés. Et on comprend énormément de choses. Et moi, je le dis, s'il y a des témoins qui ont des choses à dire et qui peuvent nous prouver que la Société Générale savait et même organisait la chose, mais qu'ils le disent, et moi, je serai le premier à le...
Sous ton contrôle, comme on dit dans les salles d'audience, Stéphane, il me semble que dans le procès en appel, d'ailleurs, Kerviel et Koubi ont fait citer des témoins dont ils nous disaient que vous allez voir ce que vous allez voir, ils vont vous montrer que la Société Générale
bien
nous
sûr. Bon. Notamment M. Houbé, et David Koubi avait demandé dans un premier temps ce qu'il soit entendu seul par la présidente, ce qui est un truc, du point de vue judiciaire, totalement aberrant. Elle a dit non, je ne peux pas, mais elle a accepté qu'il vienne, il est venu, on a entendu.
Et encore une fois, il y avait le week-end dernier cette sensation troublante de médias qui étaient fascinés par le fait de savoir s'il allait ou pas passer la frontière entre Vintimille et Menton, ce qui est quand même, enfin, d'une certaine façon, anecdotique au bout du compte. Et qu'à l'inverse, lui disait, il y a des témoins qui ont peur et qui ne veulent pas parler, et que finalement, les médias, ça ne les intéressait pas tellement, cette question-là. C'est comme ça qui est intéressant, c'est savoir si ça existe ou pas, ces témoins-là. C'est beaucoup plus intéressant sur le fond du dossier.
La manipulation, elle est là. Quand on vous dit, on a des témoins qui sont capables de nous montrer le contraire, quand on vous dit, on va demander une immunité alors qu'on sait très bien que cette immunité n'existe pas, alors que enfin, je suppose que Maître Koubi sait quand même qu'il a une possibilité, c'est de faire une procédure en révision. S'il a des éléments nouveaux, c'est quand même pas moi qui vais lui apprendre. Donc, si vous voulez, quand on est confronté à quelqu'un dont on se dit, alors, ou c'est de la mauvaise foi, ou c'est de l'incompétence, ou c'est de la manipulation, rayer la mention inutile, bah, on essaye de faire son travail.
Pauline Grohl, votre sentiment là-dessus, là, sur ce paradoxe, c'est-à-dire qu'on se passionne pour le passage de la frontière, mais au bout du compte, on ne s'intéresse pas tellement à ce que raconte Kerviel quand il dit « il y a l'omerta ».
Moi, enfin après, moi je suis pas du tout chroniqueuse judiciaire, encore une fois, mais ça me semble pas dingue d'imaginer qu'effectivement certaines personnes sont parties avec un gros chèque et puis qu'on leur a dit bon bah voilà.
Avec une petite clause du style
voilà,
bon, faut pas trop parler.
Oui, comme
c'est
ça, possible,
c'est plausible. C'est vrai.
La CGT a fait un communiqué très intéressant, la CGT de la Société Générale là-dessus, sur ces histoires. Quand les cadres partent, qu'il y a une transaction sur un licenciement qui partent avec une énorme somme d'argent, il y a toujours une clause de confidentialité. Mais c'est pas, n'allez pas dire tous les saloperies qu'on a faites avec Jérôme Kerviel. C'est de dire, vous ne révélez pas les secrets de l'entreprise, vous ne révélez pas le montant de vos indemnités parce qu'on n'a pas envie de verser les mêmes à 40 de vos petits camarades. Et voilà. Et c'est dans, enfin, moi, je ne suis pas non plus le roi du licenciement, mais enfin, je crois savoir que dans les milieux de l'entreprise, c'est quelque chose de truc. Alors après, qu'on essaie nous faire croire que cette clause de confidentialité porte sur des secrets inavouables liés à l'affaire Kerviel, il n'y a pas. Et encore une fois, la CGT, vous voyez, c'est le Figaro qui la cite, la CGT a fait un communiqué très intéressant que Olivia Dufour a répercuté par Twitter. Voilà, plume d'Alyosha.
Le secret des sources touche à sa fin, c'est donc l'heure, comme toujours, du clin d'œil final de Yacine Bouzard. Yacine s'amuse de ce chemin de croix du trader qui finit à la case prison.
Il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. »
Pas après pas, il se reconstruit.
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Le 19 février dernier, accompagné de son avocat, il rencontre même le pape François. Un entretien de quelques minutes.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Cette marche n'est pas qu'un coup de com'. L'ancien trader souhaite en faire un symbole, une lutte contre les dérives des marchés financiers.
Et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. »
Aujourd'hui ruiné, il dort et mange chez l'habitant. Un périple sur les routes et un avenir en suspens.
Il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu. » Qui ôte le péché du monde.
La marche de Jérôme Kerviel s'est arrêtée
et très vite incarcéré dans un premier temps dans une maison d'arrêt des Alpes-Maritimes.
Les portes du pénitencier, comme dirait qui vous savez, à 5 jours de l'ascension, la rédemption façon Kerviel et façon Yacine Bouzard. Les médias sont-ils manipulés dans l'affaire Kerviel? Si oui, par qui? Comme toujours, vous réécoutez, vous téléchargez et bien sûr vous commentez sur franceculture.fr. Dominique Verdeillant, Pauline Grohl, Stéphane Durand Soufflant, Fabrice Lorvaux, Éric Chavroux étaient ce matin dans Le Secret des Sources. Merci à tous. Dans quelques minutes, après le journal d'Anne Lorchouin, la mort moderne et la réparation des vivants. Alain Finkielkraut reçoit Laura Bossi et Maïlys de Kerangal. Prenez soin de vous.
À un moment, la marche, cette rencontre avec le pape qui a été présentée de façon totalement fallacieuse par David Koubi.
On va y revenir. David Koubi, c'est l'avocat.
Tout ça, à un moment, dans certains médias, a pris le pas sur l'information réelle sans aucun souci de contradiction qui est pourtant l'essence même de notre métier.
Kerviel et Koubi, sans doute, qui surcommuniquent. Après, de l'autre côté, il y a aussi les médias qui acceptent et qui en rajoutent et qui font leur beurre dessus.
Aujourd'hui, M. Kerviel, lui, reconnaît tout à fait qu'il est coupable. La seule chose, c'est qu'il dit « je ne suis pas tout seul ».
Je ne suis pas le seul coupable.